Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
Oui, à nouveau Human avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Avec aujourd'hui une thématique autour du féminisme, de l'écologie et du savoir, figurez-vous, nous avons invité Françoise Atchuel. Bonjour.
Pierre-Alain Gourion, bonjour et merci de votre invitation.
Voilà, cette invitation, elle est liée à votre parcours, puisque nous allons faire un peu votre portrait. Le portrait d'une enseignante d'abord, en mathématiques, et puis en même temps le portrait d'une militante féministe et écologiste. Au passage, puisqu'on est à peu près à un an du début de nos émissions, de cette initiative Human, on vous demandera, puisque vous êtes une spécialiste du savoir et de la transmission des savoirs, eh bien d'avoir un regard sur nos propres productions, sur l'année qui vient de s'écouler, si vous en acceptez, bien entendu, le pari.
C'est un pari, donc je l'accepte, je ne suis pas sûre de le réussir, mais je raisonnerai à partir effectivement de vos apports et de vos émissions et de vos travaux.
Voilà, alors on vous retrouve aujourd'hui à l'Université de Nanterre, où vous êtes professeur dans le domaine de la transmission du savoir, mais ça n'est pas l'intitulé exact sur le plan universitaire. Vous êtes professeur de... Aidez-moi.
Je suis professeur de sciences de l'éducation.
De sciences de l'éducation.
Je travaille dans une équipe, enfin je suis responsable d'une équipe qui s'appelle Savoir, rapport au savoir et processus de transmission. Et nous insistons un peu sur l'idée que le savoir, ça n'est pas que le savoir rationnel, académique, etc. Et qu'on est plutôt sur des processus de transmission au sens large, y compris notamment au niveau inconscient, puisque la dimension psychanalytique et l'inconscient au sens freudien sont assez centraux dans mes thématiques et ma façon d'aborder le monde d'une façon générale.
Voilà, alors vous démarrez en flèche. On va reprendre ces différents éléments, parce que vous nous avez fait là une espèce de contraction de tout ce que vous faites dans votre vie. Si je comprends bien et si je vous suis bien, il y a des savoirs scientifiques, des savoirs culturels, des savoirs sans doute aussi artistiques. Et puis, il y a une transmission de ces savoirs. Et j'ai noté une phrase quelque part dans l'un de vos ouvrages où vous dites « Le savoir peut être considéré comme un objet transitionnel, support d'une médiation entre soi et l'autre. » Alors, ça a l'air abstrait comme ça. Moi, je comprends que je sais des choses, mais ce que je sais, ce que j'apprends de ma mère, ce que j'apprends de mon père quand je suis un enfant, va m'aider à entrer en relation avec eux. Est-ce que jusque-là, je me trompe ?
Non, mais c'est pas tout à fait ce que... Enfin, c'est toujours intéressant puisque on a une perception de ce qu'on écrit et l'autre a toujours une perception différente de ce qu'on écrit. Donc moi, ce que je voulais dire en disant ça, c'est plutôt qu'on reconstruit à chaque fois le savoir qui nous est apporté de l'extérieur et que donc il y a des processus qu'on qualifie de transitionnels. Ça, c'est un terme qui est dû au psychanalyste Winnicott, c'est-à-dire cette idée qu'il y a toujours des mouvements d'aller-retour entre le sujet... Donc le sujet au sens psychanalytique, c'est-à-dire la personne dotée d'un inconscient, il y a toujours des allers-retours entre le sujet et le monde extérieur. Et que les savoirs sont des bons outils pour faire ces allers-retours, puisque le savoir circule toujours entre l'objectif et le subjectif. Ils sont toujours en train de reconstruire et de se réapproprier des savoirs, d'en oublier des morceaux, d'en rajouter des morceaux à soi, etc. C'est ces mouvements-là qui vont être pour moi des mouvements transitionnels. Mais en même temps, par ça, évidemment, on se relie à l'autre au sens plus rationnel et plus conscient du terme.
Alors, on va s'interrompre une seconde, Françoise Atchuel. Pourquoi est-ce que vous riez ? Pour écouter notre chroniqueuse habituelle qui s'appelle Marion Curtillet. Écoutez.
Avec plaisir.
On frappe à ma porte par Marion Curtillet.
Aujourd'hui, Pierre-Alain, c'est un poème qui frappe à votre porte. Il s'appelle « Le déni des maths ». Il était une fois un élève gentil, mais pas doué, qu'une idée un matin avait séduit, et si des maths naissait le conflit. Inventons d'autres lois, avait-il proclamé, une alternative pour nos esprits à la dictature du tri. Si 2 égale 3, s'était-il enflammé, si grand égale petit, si rien ne divise et tout multiplie, si disparaissent les poids, s'effacent les quantités, si plus rien ne se suit dans des ensembles jamais finis, si nous créons d'autres voies, si nous osons inventer, délaissant Pythagore et toutes ses théories, nous serons libérés de la loi des séries. Alors, et pour vous, et pour moi, plus de cases à supporter, plus de plus grands, de plus petits, de plus laids, de plus jolis. Fini les rois, plus de damnés, un monde sans maths, un monde sans tri, un monde pour nous et nos envies. Il serait une fois la subjectivité, libre à chacun de vivre sa vie, vulnérable, oui, mais sans souci. Belle profession de foi, élève gentil et pas doué, mais les maths sont là, pas de déni. Cherchons ailleurs la fin des conflits.
Voilà, alors on va y revenir tranquillement en prenant le temps d'expliquer les choses, parce que ces notions sont pas forcément comme ça, d'une grande évidence. On se mettra des petits bouts de musique pour se faire des petites pauses de temps en temps, parce que sinon on va être épuisé, en tous les cas moi.
Que je ne voudrais pas.
Je vais essayer d'éviter, oui. Et puis, mais d'abord, on va parler de vous, de votre parcours. Au départ, vous êtes plutôt une scientifique, plutôt une mathématicienne, une matheuse.
Tout à fait. Donc, je suis agrégée de mathématiques.
Oui.
Et j'ai fait le choix d'études mathématiques quand il fallait décider après le bac de ce qu'on voulait faire dans la vie.
Pourquoi vous faites maths à ce moment-là ?
Alors voilà, j'hésitais beaucoup. J'étais déjà très intéressée par la psychologie, les questions humaines. J'étais déjà animatrice en centre de vacances, donc très intéressée par les questions d'éducation. J'ai choisi très consciemment avec un enjeu social, j'aurais presque envie de dire sociologique, c'est-à-dire en me disant avec des maths je serais toujours sûre de gagner ma vie, donc ça me faisait une sécurité, ouais, c'était ma sécurité sociale à moi. Des enjeux de transmission aussi, puisque ma mère était matheuse, ma sœur était matheuse, donc ça rassurait tout le monde, mais moi inclus, et je me disais comme ça, après je pourrais voir si j'ai envie de faire autre chose, ça me donnait une grande liberté, ce que je ne regrette pas du tout. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est faites des études valorisées, reconnues, ça permet à partir de là ensuite de rebondir sur ce qu'on... Enfin, de prendre le temps de trouver ce qu'on a envie de faire, puisque aujourd'hui, on vous dit à 13 ans et demi qu'il faudrait savoir ce que vous voulez faire. Donc ça me semble totalement délirant, puisque je crois que les parcours se construisent notamment à partir de rencontres. Donc pouvoir faire des rencontres tout en ayant la sécurité de pouvoir gagner sa vie à coup sûr, c'est extrêmement précieux. Et à partir de là, mon parcours a pu évoluer.
Je suis frappé d'ailleurs, dans l'époque actuelle, par le fait que on travaille beaucoup avec beaucoup de jeunes, des gens entre 20 et 25 ans dans notre équipe. Et je suis très frappé par le fait qu'il y a un grand nombre de gens qui s'estiment mal orientés, c'est-à-dire qui ont fait des études, qui sont devenus ingénieurs par exemple, on a eu un exemple tout récemment, et puis qui n'ont pas du tout envie d'être ingénieurs, et qui veulent faire autre chose. On ne peut pas déterminer ce qu'on a envie de faire très jeune, comme vous le dites, il faut passer au filtre de l'expérience et des rapports avec les autres.
Ben oui, parce qu'en plus, ingénieur, il y a 12 millions de façons d'être ingénieur. Ouais. Donc, un des enjeux, c'est on n'est pas non plus ingénieur pour rien. C'est bien qu'on a un certain goût pour une certaine rigueur ou un certain nombre de choses. Donc, tout l'enjeu pour moi, c'est ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces apports et de ces savoirs scientifiques, académiques, pour les mettre en œuvre d'une façon qui nous corresponde personnellement, de façon profonde. Et ça, c'est vrai pour des ingénieurs, pour des médecins, pour des infirmières. On essaye beaucoup. L'enjeu du master dont je suis responsable est vraiment beaucoup d'aider chacun à construire sa pratique professionnelle. Donc nous, on est plutôt dans les métiers qu'on appelle du lien. Mais je crois qu'on pourrait avoir le même travail avec des ingénieurs ou des médecins. Simplement, ils viennent moins chez nous. Ils ont moins le sentiment qu'ils pourraient avoir besoin de nous. Mais d'aider chacun vraiment à construire sa façon d'être ce qu'il est professionnellement.
Alors revenons à votre parcours. Vous êtes matheuse, vous avez fait l'école normale supérieure, vous êtes agrégée de maths et vous vous retrouvez quoi, prof de maths?
Alors je me retrouve prof de maths, tout à fait, mais après un certain nombre d'interruptions, puisque oui. J'ai pris un certain nombre d'années, enfin j'ai pris une année sans solde en tant que normalienne, et puis j'ai cherché un certain nombre de choses. C'est la grande liberté que permet l'école normale supérieure.
Une année sans solde à faire quoi alors?
Une année sans solde à faire du théâtre et à passer mon brevet de directrice de centre de vacances et à construire un centre de vacances coopératif. C'est-à-dire coopératif avec les animateurs et avec les enfants. Donc mettre en place, j'étais très inspirée par la pédagogie institutionnelle notamment, et mettre en place des outils qui permettent aux enfants de donner leur avis, de prendre la parole. Et de prendre la parole ne veut pas dire de décider. Là aussi, il y a une grande confusion aujourd'hui, je suis très étonnée, où écouter les gens... Ça voudrait dire répondre à toutes leurs demandes. Donc là, il y a quelque chose peut-être sur lequel on reviendra, qui pour moi est très important, autour de donner une place au désir de l'autre, ne veut pas dire y répondre forcément.
Et être d'accord avec lui.
Et être d'accord avec lui. Voilà, donc un élément central pour moi, c'est la question du conflit. Donc mettre en place les conditions d'une résolution du conflit qui ne passe pas par la violence. Et apprendre aux enfants à travailler ça. Ça s'appelle une réunion, hein, tout simplement.
Oui, mais... en écoutant, quoi.
Voilà. Donc, avec un certain nombre d'un cadre de prise de parole un peu rigoureux. Donc, c'est ce qui, ensuite, dans mes travaux, m'a amené au rituel. C'est-à-dire l'idée que quand c'est ritualisé, on sait quand est-ce qu'on aura la parole, on sait qu'il y a une réunion tous les jours, donc quand on commence à s'énerver, ben, on en parlera à la réunion demain, enfin.
Mais alors, voilà. Mettons pas la charrue avant les bœufs, vous allez à toute allure, prenons notre temps. Vous avez fait ce break d'un an. Et puis vous avez fait maths, donc vous êtes prof de maths, vous devenez prof de maths.
C'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que les centres de vacances me font découvrir les sciences de l'éducation.
Oui.
Puisque j'étais mes formateurs de direction de centres de vacances étaient en maîtrise de sciences de l'éducation et que j'ai trouvé leur approche extrêmement intéressante. Puisqu'ils ont passé, je crois que c'est une semaine, la formation BAFD, ils ont passé une semaine à aider chacun à ramener son projet à la réalité. C'est-à-dire, on a des grands projets, on va faire comme ci, comme ça, et à poser des petites questions un peu incisives. Oui, mais si ça ne se passe pas comme tu avais décidé. Alors, par exemple, moi, j'avais de grands projets donc, autour de la liberté de parole des enfants, et on a des ateliers et ils vont choisir. Et le formateur me dit, oui, mais s'ils ne choisissent pas. Ben non, mais puisque mon projet dit qu'ils vont choisir, ils choisissent. Ben non, peut-être des fois les enfants ne font pas ce que tu as prévu. Et cette approche m'a extrêmement intéressée et je me dis que finalement les sciences de l'éducation, c'est avant tout non pas ce qu'il faut faire, mais comment les choses se passent en vrai. Et la rencontre ensuite avec les sciences de l'éducation m'a amenée à la rencontre avec la psychanalyse et à la question du déni, qui à mon avis est centrale, c'est-à-dire... Comment, à chaque fois, on voudrait que le monde soit comme ça et on ne veut pas voir qu'il n'est pas tout à fait comme ça. Et donc, j'ai voulu m'engager dans un travail en sciences de l'éducation et pour financer ma thèse, j'ai pris un poste de prof de maths. Ça, j'étais absolument cohérente avec mes choix. Voilà, j'ai quelque chose qui me permet de manger. Je vais en profiter et en même temps m'engager dans ce travail de recherche qui m'intéresse.
D'accord. Et donc, pour manger, comme vous le dites, vous êtes prof de maths. Et vous êtes prof de maths de quoi? Dans un lycée, un excellent lycée parisien dans quel type de milieu?
Ben non, évidemment, parce que ça, c'était pas très intéressant pour moi. Donc évidemment, j'avais un enjeu depuis longtemps déjà autour des droits de l'homme, autour de la défense des plus défavorisés, autour... Donc j'avais un engagement écologiste. Mon premier acte écologiste, pour autant que je m'en souvienne, c'était à 11 ans, d'aller protester auprès de la direction du collège, puisqu'on avait eu une intervention d'EDF dans le cadre à l'époque des 10%. C'est-à-dire que 10% du temps des collégiens était consacré à d'autres activités que des cours. Nous avions eu une intervention d'EDF pour nous vanter les mérites du nucléaire. Je suis allée demander pourquoi il n'y avait pas eu une intervention de gens défendant l'électricité solaire pour nous expliquer aussi en quoi l'électricité solaire, ça pouvait être l'avenir.
Comment réagit le prof ou le surveillant général? On dit plus comme ça maintenant. Je crois qu'on dit principal, je ne sais plus comment on dit.
Je crois que j'ai appris déjà à cette époque-là que les adultes noyaient le poisson. Donc, ils m'ont dit oui, c'est intéressant, on va y réfléchir.
Bon, d'accord, on vous écrira.
Voilà. Et donc, je suis rentrée en grognant qu'ils se sont encore moqués de moi et on ne nous écoute jamais dans ce collège.
Bon, alors, prof de maths où?
Donc, prof de maths dans un collège de la banlieue parisienne. A choisi le roi.
Vous aviez quelle classe?
Ben, de 6e à 3e.
Bon, et comment ça se passe?
Eh ben, ça se passe alors beaucoup à l'énergie. J'étais très jeune et très active. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je ne travaillerai plus tout à fait de la même façon. Mais voilà, enfin, un lien aux élèves qui m'a beaucoup plu, qui était un peu fatigant, mais beaucoup jouant aussi de ma proximité d'âge avec eux. Donc, un premier lien sur ce mode-là, sur un mode un peu de défi, de provoquer, enfin pas de provocation, mais je vais pas me laisser faire, quoi. Et puis petit à petit, l'entrée dans la rigueur, je crois que pour moi c'est vraiment le terme central, c'est-à-dire les maths c'est apprendre à penser, ben on va aussi apprendre à penser au quotidien. Je me souviens d'élèves disant à son camarade « Non, mais arrête de lui raconter des salades. De toute façon, avec elle, on s'en sortira pas. Elle nous lâchera pas. Donc, tu lui dis la vérité et on va commencer à résoudre le problème qui s'est posé en être humain doté d'intelligence. »
Et ça marche ?
Et ça marche, bien sûr. C'est un peu long au début à mettre en place, mais ça marche, bien entendu. Prendre les gens pour des sujets dotés d'une parole, tout en leur disant qu'on va les écouter, mais pas s'ils parlent n'importe quand, n'importe comment, et en hurlant sur le voisin, mais que s'ils respectent les codes, on va prendre en compte ce qu'ils racontent et on va essayer de comprendre ce qui se passe et d'appliquer des réponses cohérentes, rigoureuses, équitables, etc. Oui, bien sûr, ça marche.
Bon, voilà. Alors, on vous a demandé, avant de commencer cette émission, quelques titres musicaux. On va faire une première pause. Et vous nous avez proposé Vicente Amigo. C'est de la guitare. Callejón de la Luna.
Eso. Thank you.
Voilà, nous sommes avec Françoise Atuel, professeure de sciences de l'éducation à Nanterre, sur des thèmes de féminisme, d'écologie et de savoir. Nous sommes dans Human et nous avons entendu cette sympathique guitare qui peut-être s'est mêlée à un voisinage quelque peu bruyant. Aujourd'hui, les musiques s'entrechoquent, les musiques se parlent, comme les hommes et les femmes, comme les femmes entre elles. Voilà, tout le monde se parle, en fait, et souvent on ne se comprend pas. Est-ce que vous trouvez que ce monde est incompréhensible, indéchiffrable ?
Ah ben non, je suis chercheuse, donc j'essaye de le déchiffrer, de lui donner des éléments de compréhension, donner des pistes qui permettent d'en attraper des bouts de compréhension et d'essayer effectivement de comprendre comment les gens peuvent un peu mieux se comprendre ou pourquoi les gens ne se comprennent pas, si on reprend ce que vous venez d'apporter.
Vous êtes chercheuse, dites-vous. Vous cherchez quoi ?
Je cherche à comprendre le monde tel qu'il est. Je pense que ça, c'est de plus en plus... c'est aussi mon travail analytique qui me permet de quitter les enjeux et d'aider, dans mon travail de formatrice, les autres à quitter les enjeux de normes, de croyances en ce qu'il faudrait faire, de contraintes qu'on se met, d'auto-contraintes, etc., pour aller davantage vers déjà comprendre le monde tel qu'il est, réellement, et c'est pas facile, c'est-à-dire tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qui est, je parlais tout à l'heure de déni, tout ce qui est refoulé, si on veut prendre un terme psychanalytique, et à partir de là, un tout petit peu plus de lucidité, comment moi je peux agir au plus juste de moi et de mes objectifs. J'essaye par exemple quand les étudiants disent... Donc mes étudiants sont des professionnels généralement assez engagés, enfin...
Des professionnels de l'éducation.
De l'éducation, du travail social, du soin, mais donc des gens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de bouteille, qui viennent un peu se
ressourcer.
Se ressourcer, exactement. Oui. Donc quand ils disent « je dois », j'essaye de leur faire traduire « je dois » par « je voudrais », par exemple, ou « il faut ». Par c'est pertinent. C'est toujours se dire, vous, de là où vous êtes avec vos objectifs, qu'est-ce que vous pensez qui est juste pour vous ? Et non pas un extérieur qui nous dirait ce qu'on doit faire. Ce qui est de plus en plus compliqué, puisqu'on est dans un monde où la logique de procédurisation et de bonne pratique, mais au mauvais sens du terme, gagne beaucoup de terrain dans nos métiers.
C'est-à-dire, il faut faire comme ça, on va vous dire
c'est
la procédure.
Voilà, voilà. Et donc, oui. Vous avez des gens qui réfléchissent dans leur bureau, qui n'ont pas vu un malade depuis un certain nombre de temps, mais qui vous disent que pour faire des économies, parce que c'est souvent pour ça, c'est comme ça qu'il faut travailler. Et cette idée aussi qu'il y aurait une bonne façon de faire qui serait la même pour tout le monde. Donc ça... Si on prend quelques mots-clés dans mes enjeux, il y a conflit, il y a déni et il y a subjectivité.
Alors, reprenons ces trois termes. Vous dites conflit, déni, subjectivité, que j'aimerais bien qu'on définisse. Mais avant ça, la question de base, puisque c'est la psychanalyse qui est au cœur de votre travail et de votre recherche, en quoi l'approche psychanalytique est un outil pour creuser ce que vous creusez, c'est-à-dire la transmission des savoirs?
Pas seulement des savoirs, la transmission.
La transmission. Des savoirs et de quoi d'autre?
Des savoirs et des histoires, on va dire. La façon dont chacun de nous transmet son histoire à autrui.
D'accord. Donc, en quoi la psychanalyse aide?
Alors, la psychanalyse, en fait, elle nous permet de comprendre à quel point nos actions, nos pensées, nos émotions sont étroitement liées à notre histoire personnelle et à notre vécu précédent. Donc, c'est de comprendre comment ce qui va nous dérouter, par exemple, dans nos façons de faire, va être issu d'une répétition, d'un évitement, d'éléments qu'on est en train de reproduire sans s'en rendre compte.
On peut prendre un exemple concret.
Voilà, alors je vais prendre un exemple concret. Du coup, ça va toucher mon papa. Un jour, un étudiant me dit « Ah là là, Françoise, avec vous, les parcours que vous nous proposez, c'est vraiment du sur-mesure. » puisque j'adapte chacun. Il y a des allègements, il y a des compléments, on peut faire en 2 ans. Enfin, on essaye de faire, là encore, que chacun fasse le parcours d'études en fonction de ce qui lui correspond, de ce qui lui convient. Et je lui réponds, ah non, pas du sur-mesure, de la mesure industrielle. La mesure industrielle est ce que mon père, Paul Atuel, tailleur couturier à Lyon pendant un certain nombre d'années, a mis en œuvre avec l'aide d'un fabricant Zegna, c'est-à-dire une façon particulière de prendre des mesures, de les envoyer ensuite au fabricant et de faire un costume en partie industriellement parce que ben, c'est moins cher et ça va plus vite, mais le plus proche possible des mesures de la personnalité et du besoin du client. Donc c'est un mixte entre la faisabilité, parce qu'évidemment on pourrait faire du vrai sur mesure, mais là ça devient plus compliqué, et quand même l'adaptation maximale, on pourrait dire, dans un jeu de contraintes. Et je me suis rendu compte, donc en répondant à cet étudiant, et c'était pas du tout conscient évidemment, quand j'ai mis en place les adaptations de parcours du master, j'ai pas du tout pensé à mon père, mais je me suis rendu compte que j'avais ce souci de faire en sorte que les gens, à la fois dans un système contraint, tout n'est pas possible, mais on essaye le plus possible d'adapter à la personne. Et avec un enjeu, c'est qu'il faut qu'on sorte de là avec un costume, donc un parcours d'études, dans lequel on est bien, qui vous corresponde, mais qui présente bien, dans lequel socialement on puisse agir dans le monde social. Et ça m'a évidemment beaucoup touchée de me rendre compte que dans mon travail au quotidien, en fait, j'étais très imprégnée de valeurs transmises par mon père. Donc là, on est dans un
cas... J'ai l'impression que ça va lui faire plaisir aussi à lui.
Bah écoutez, on verra. Donc là, on est dans un cas plutôt positif. Et puis, il y a des fois, on est plutôt dans un cas plutôt négatif, où c'est plutôt des peurs qu'on va transmettre, des refus, des impossibilités, des choses comme ça.
Voilà. Alors, reprenons les trois termes que vous avez évoqués avant d'indiquer en quoi la psychanalyse pouvait vous aider. Il y avait le déni. Il y avait...
Le déni, la subjectivité, le conflit.
Et le conflit. On commence par quoi ? Le conflit ?
Le conflit,
ouais.
Allons-y.
Alors le conflit, les hommes sont toujours en conflit. L'humanité avance à travers les conflits, c'est marxiste ça.
Ben avant, pour moi, c'est d'abord freudien,
oui,
c'est-à-dire qu'on
oui,
est
oui.
d'abord en conflit avec soi-même.
On est d'abord en conflit avec soi-même.
Le conflit, c'est d'abord le conflit interne, et c'est ça la dimension inconsciente, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a refoulées, des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas savoir, des désirs, des pulsions... Donc, des conflits entre eux, ce qu'on voudrait faire, ce qui n'est pas possible.
Le bébé est en conflit ?
Alors, le bébé, oui, est en conflit. Le bébé, à partir du moment où il naît, il quitte un monde où chaque fois il n'a ni
tout
faim, ni froid,
oui,
ni,
oui.
etc. Oui. Et il se retrouve dans un monde où il est soumis à des frustrations intenses, sans avoir aucun moyen d'y répondre, puisque la caractéristique du nouveau-né humain, c'est qu'il n'a pas encore de capacité motrice, et donc il n'a aucune autonomie. Donc ça, c'est un de mes auteurs de référence, qui est Gérard Mendel, qui dit que vraiment la question humaine de base, c'est cette question-là, c'est la question de la dépendance fondamentale du nouveau-né. Et que tout l'enjeu, ensuite, c'est de sortir de cette dépendance fondamentale. Ce qui est propre aux humains, hein, puisque du fait de la station debout, le nouveau-né humain naît, on pourrait dire, avant terme. En gros, on considère que la gestation, si on regarde par exemple par rapport à la durée de vie de l'humain, l'espérance de vie, la gestation devrait durer 2 ans pour avoir un nouveau-né qui naisse à peu près dans le même état de développement que les nouveau-nés des autres mammifères, c'est-à-dire notamment l'acquisition de la marche.
Donc j'étais dans le ventre de ma mère, tout allait bien, les bruits étaient amortis, j'étais dans mon petit liquide amniotique, je me nourrissais finalement, j'allais dire naturellement, et puis tout d'un coup, boum, je suis expulsé, je prends un grand bol d'air, mon Dieu, mes poumons, etc. Et là, les ennuis commencent.
Exactement. Parce que non seulement j'ai besoin des autres, mais en plus, il y a des fois où les autres ont autre chose à faire que de s'occuper de moi.
Aïe.
Ce qui est quand même
scandaleux du point de vue du bébé.
Tout à fait.
Oui.
Parfait. Et donc tout l'apprentissage humain consiste à raisonnablement trouver comment faire en sorte que les choses avancent dans le sens que je souhaite, tout en acceptant la réalité qui est que ça ne va pas tout à fait se passer tout le temps comme je veux.
Une suite épouvantable de frustration.
Une suite épouvantable de frustration et de ce que Françoise Dolto appelle de castration. Alors, elle appelle ça même des castrations symboligènes, c'est-à-dire d'accepter au fur et à mesure du développement les limites que nous pose notre propre corps, le monde extérieur, les autres, la société, etc.
Et ça va être ça, l'éducation. Ça va être d'apprendre et d'aider ce petit enfant à accepter, à gérer les frustrations, les conflits.
Tout à fait. Voilà. À trouver des façons d'accepter le conflit et de le résoudre. Alors, une façon de résoudre le conflit, donc ça c'est vraiment les apports de la non-violence, du travail sur la non-violence qui sont très intéressants. Une façon de résoudre le conflit, c'est la violence, c'est-à-dire l'élimination d'une des deux parties du conflit.
Ouais.
Après, il y a d'autres façons
de résoudre. Je suis dans ma crèche, il prend mon jouet, je lui mets mon poing sur la gueule.
Et je récupère le jouet et l'autre me fiche la paix.
Voilà.
Voilà. Mais évidemment, il y a d'autres façons de résoudre le conflit. Donc, je suis dans ma crèche, il y a un jouet, ben, j'accepte de le laisser à l'autre, je vais aller prendre un autre jouet, ou je vais trouver une façon de jouer avec l'autre et on partage et on joue ensemble, ou je construis un jouet similaire, enfin voilà, il y a plein d'autres façons, entre la créativité, le renoncement, le partage, une gestion rigoureuse du temps d'usage du jouet, donc la rationalité en général peut être une façon de résoudre le conflit, mais il y en a plein, quoi.
Voilà pour le conflit. Autre point d'accroche, le déni, parce que je peux aussi refuser une évidence.
Ben justement, en général, c'est pas une évidence. C'est ça qui est complexe.
Oui.
C'est qu'en général, moi, je le vois pas. Peut-être qu'il y en a d'autres qui le voient, mais pour moi, je le vois pas. Pour moi, c'est plutôt l'évidence que ce qui me dérange n'est pas là. Donc, si je reprends mon histoire d'enfants qui vont choisir, ben si, les enfants choisissent. Point. Le fait que parfois, des enfants n'ont pas appris à choisir et donc vont arriver en centre de vacances et ne vont pas être aptes à choisir.
Choisir quoi ?
Donc, si je reprends mon exemple tout à l'heure, hein, en centre de vacances, je propose des ateliers. Donc, le matin, vous pouvez aller faire poney ou perle ou promenade et vous vous déterminez librement en toute conscience dans ces différents ateliers.
Il y en a qui ne savent pas.
Il y en a qui ne savent pas.
Et quel rapport avec le déni ?
Eh bien, parce que moi, je suis, en tant qu'animatrice, je suis dans le déni du fait que c'est pas si simple de choisir.
D'accord.
C'est-à-dire que je suis dans mon désir de démocratie et je ne comprends pas que la démocratie, ça demande une formation en amont. Mmh. Une formation et puis que, c'est-à-dire de croire qu'il y a un consentement librement éclairé. Ça, c'est une illusion. Voilà un exemple de déni. L'idée du consentement, pour moi, l'idée même du consentement peut parfois friser au déni. Alors, il y a
mais là, c'est la démocratie que vous remettez en cause.
Alors, c'est pas la démocratie. Je vais revenir un tout petit peu avant la démocratie. Il y a un magnifique livre qui vient de sortir sur cette question. C'est Le consentement, justement, de Vanessa Springora, dont certainement vos auditeurs ont entendu parler, qui est donc à 14 ans, une relation avec Gabriel Matzneff, qui en avait 50, et qui a mis donc 33 ans à écrire ce que c'est que l'emprise, parce que c'est ça en fait. C'est-à-dire que, et elle dit, c'est ça qui est très compliqué, c'est ça qui est destructeur, c'est pas les enjeux moraux, la sexualité, etc. Ce qui est très destructeur, c'est qu'à 14 ans, on n'a pas les outils pour dialoguer d'égal à égal avec quelqu'un de 50 ans, et que donc, et elle le montre très bien avec plein de moments très précis, comment cet homme-là pouvait être dans l'emprise par rapport à elle. Et le déni, par exemple, c'est de croire qu'on est tous égaux, qu'on a tous les mêmes outils, c'est ce qu'on voudrait, hein. On aimerait tous, évidemment, que tout le monde puisse dialoguer d'égal à égal, que tout le monde puisse prendre la parole, savoir la prendre, etc. Et non, évidemment, ça n'est pas si simple. Il y a des dominants et des dominés, il y en a qui parlent mieux que d'autres, il y a des rapports de pouvoir, mais même si on élimine les rapports de pouvoir externes, il y a encore des rapports de pouvoir internes. Il y a encore des inhibitions, il y a encore des doutes, des difficultés, des impossibilités à choisir pour nous-mêmes. Là encore, on revient à notre conflit interne. Et des doutes, bien entendu.
Et quand je dis des doutes, vous l'avez compris, c'est pour annoncer la deuxième musique. Parce que la deuxième musique, c'est les gens qui doutent.
Un très beau texte d'Anne Sylvestre, dans une très belle reprise.
Chanté par qui ?
Jeanne Chéral, Vincent Delerme, et je ne me souviens plus du troisième.
Eh bien, je vous le dis, parce que je sais tout, Albin de la Simone.
Voilà.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et garder le meilleur.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promettent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu.
Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Et voilà, nous sommes dans Human et nous sommes avec Françoise Hatchuel sur ces questions de sciences de l'éducation. Donc, on en était à définir ces notions de conflit, de déni. Et la troisième notion que vous évoquiez, c'était la subjectivité, Françoise Hatchuel. La subjectivité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des données objectives, constat du réel. Et puis, il y a la manière dont les hommes vont ressentir ces constats. Et cette manière dont les hommes vont ressentir cette réalité, elle peut tout changer. Je prends un exemple sur les immigrés, par exemple, et sur les migrants. On est quelque part dans une sorte d'imaginaire d'invasion de migrants qui n'est pas le cas, qui pourrait certes le devenir. Donc on est dans une peur, et du coup cette peur fait que ça devient une sorte d'argument politique. Alors cette subjectivité, ben, définissez-la, décrivez-la, dites en quoi c'est un élément qui est important, au même titre que le déni et le conflit.
Donc à chaque fois, c'est toujours le respect du sujet, la question. Et
le respect de l'autre.
Non, le respect de soi d'abord.
Oui, d'accord.
Donc l'idée donc moi je suis très centrée sur les questions de travail, sur la façon dont chacun travaille. Et l'idée qu'on peut pas travailler comme le voisin, que ce qui correspond au voisin n'est peut-être pas ce qui vous correspond à vous.
Oui.
Alors par exemple Marie-Pierre Guillot-Bailly, qui est quelqu'un qui vient de la psychodynamique du travail, a un petit jeu que j'aime bien au début de ses interventions. Elle demande aux gens: que faites-vous pour vous détendre? Elle fait un petit tour de table. Et on voit qu'évidemment, les gens ne se détendent pas du tout de la même façon.
Qu'est-ce que vous faites, tiens, pour vous détendre, vous?
Alors moi, j'ai répondu: la lecture et le tango.
D'accord.
Voilà, donc déjà, chacun a déjà plusieurs façons de se détendre.
Oui.
Donc ça ne va pas être la même chose que le voisin. Selon pourquoi vous êtes tendu, vous n'allez pas adopter la même réponse. Et puis, le voisin avec la même tension va encore adopter une réponse différente. Donc, il n'y a aucune raison que dans le travail, ça soit différent. Donc, notre façon d'aboutir à un objectif ne va pas être la même que le voisin. Donc, la défense de la subjectivité, notamment, je dirais dans la pratique, que ça soit le travail ou la pratique sociale, enfin, en tout cas dans le lien aux autres, la défense de la subjectivité, c'est de dire que ce qui me correspond n'est pas ce qui te correspond. Donc, que personne ne peut parler à la place de l'autre, personne ne peut dire à la place de l'autre: tiens, t'as qu'à faire comme ça, ou tiens, tu dois faire comme ça. On peut fixer des objectifs. En tout cas, moi, je revendique qu'on peut me dire que je dois tenir tel objectif parce qu'un collectif a décidé que, bon, il fallait aller dans cette direction-là. Mais la façon que j'ai de répondre aux objectifs, ça, il n'y a que moi qui peux savoir comment je vais pouvoir, avec ce que je suis, avec mon environnement, etc., répondre à ces objectifs. Pour faire une petite parenthèse sur des enjeux militants actuels, puisqu'aujourd'hui je suis en grève contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, puisque c'est une journée de mobilisation nationale, ça fait partie, j'essaye d'expliquer à mon président d'université qu'il peut me dire que je dois faire la même chose avec moins d'heures de cours, mais il me dit pas où est-ce que j'enlève les heures de cours. Ça, c'est mon travail de responsable de formation, de savoir quels sont, à mon avis, les endroits où je vais pouvoir faire des économies ou pas. Or, nous avons eu, il y a quelques années, une obligation de diminuer les heures mémoire, par exemple. Moi, je pense que accompagner des gens dans l'écriture, c'est central. Donc, je ne souhaitais pas diminuer ces heures-là. Donc, ma subjectivité et la subjectivité de mon équipe et la subjectivité de la formation que je mets en place, voilà, ça va être, par exemple, de ne pas avoir tout à fait
là,
les mêmes normes.
Ce n'est pas votre subjectivité, c'est les problèmes que vous rencontrez. C'est objectif, ça.
Ben non, parce qu'on prétend me répondre. Enfin, le pilotage prétend nous répondre objectivement qu'on a décidé que pour tant d'étudiants, pour un mémoire, pour accompagner tant d'étudiants en mémoire, il faut tant d'heures de cours. Et que ça, c'est une norme nationale et qu'il y a des gens qui ont décidé que, or nous, au vu des problèmes qu'ils rencontrent, au vu de ce que nous on est, au vu, etc., on pense différemment.
D'accord. Comment, d'une manière générale, est-ce que vous associez, est-ce que vous mariez cette subjectivité qui vous tient à cœur avec la démarche scientifique? Je veux dire que la démarche scientifique, généralement, c'est le constat. Il y a une pesanteur. Je lâche ce stylo, il va tomber à une certaine vitesse vers le sol, etc. Il va prendre de la vitesse. Bon, il y a des données objectives. Il n'y a pas de subjectivité, là. Et on a dans la tête, j'ai dans la tête, que la démarche scientifique devrait exclure tout élément de subjectivité. Je me trompe ?
Alors, c'est la représentation commune, mais nous, effectivement, je dis nous parce que c'est la démarche dans laquelle je m'inscris, on s'inscrit absolument contre cette représentation-là, c'est-à-dire qu'on pense qu'au contraire, il y a toujours du sujet, il y a toujours de la subjectivité, et que, y compris en recherche, donc là, nous, on est très au clair, en recherche en sciences humaines, on ne peut comprendre que ce que les données nous font. On ne peut pas comprendre les données en elles-mêmes, le réel en lui-même, ça n'existe pas. Par contre, à travers ce qu'on comprend de ce qui se passe pour nous, par exemple, quand on mène un entretien, on va avant tout analyser ce que les paroles d'autrui nous font à nous.
Ça, c'est dans les sciences humaines.
Voilà.
Mais en astrophysique, si on parle par exemple d'effondrement, en évolution de la planète, Est-ce qu'il y a de la subjectivité ou est-ce que c'est des données scientifiques exactes ?
Les deux, mon capitaine.
Oui.
C'est-à-dire, il y a des données. Alors, il y a des calculs, évidemment. Les calculs, les données objectives sont objectives. Mais ce que chacun va voir, pourquoi à un moment je vais me lancer dans tel calcul ? Pourquoi à un moment je vais zapper telle donnée, je ne vais pas la prendre en compte ? Toute la façon de gérer la complexité, parce qu'évidemment, toute la recherche, c'est une complexité énorme. Et tout le travail du chercheur, c'est de se débroussailler avec cette complexité. Là, il y a toujours des choix à faire. Ces choix à faire vont dépendre de chacun.
Voilà. Et vos choix, parce qu'on est obligé d'accélérer un peu, ça a été d'être féministe. Ça, ça fait partie de votre cursus. Et ça a été aussi d'être écologique. Écologiste, écologue, comment dit-on ?
Écologiste.
Écologiste, oui.
Voilà. C'est une pensée.
Trois mots là-dessus. Oui. Et puis ensuite, on regarde le travail effectué par Human sur un an. Et votre avis en termes de transmission du savoir sur cette question.
D'accord. Donc, l'écologie, c'est, je crois que c'est d'abord la lutte contre les grands projets. Mais là encore, je crois que mon point de départ central, c'est qu'on ne parle pas à la place de l'autre et on ne fait pas à la place de l'autre. C'est que chacun est le mieux placé pour savoir ce qui lui correspond. Mais d'un côté, qu'il faut lui donner des outils pour mieux se comprendre, mieux se connaître. Et d'un autre côté, qu'il faut qu'ensuite, tout ce petit monde arrive à se mettre un petit peu d'accord. Donc, actuellement, et peut-être là, ça peut intéresser votre travail autour de l'humanitaire, un de mes enjeux, c'est d'essayer de mieux comprendre comment chacun peut mieux prendre en charge sa propre vulnérabilité. Donc de m'inscrire un peu en faux contre cette idée qu'on pourrait protéger les autres, j'ai presque envie de dire contre eux-mêmes ou à leur place, etc. C'est-à-dire qu'on ne protège jamais que soi-même et que par contre, il faut faire attention à essayer de ne pas nuire à autrui, mais qu'ensuite, chacun est responsable de lui-même. Et que c'est avant tout à chacun. Ne pas penser à la place de l'autre aussi, c'est de ne pas non plus, parce que là, sinon on est dans une espèce de monde complètement aseptisé où on ne se peut rien dire parce qu'on va blesser l'autre. Ben non, je dis, et puis si je blesse l'autre, ben il me le dit, et j'y vais suffisamment doucement. Alors là aussi, le travail sur les rituels aide beaucoup, c'est-à-dire je mets un certain nombre de choses en place pour essayer de prévenir un peu l'autre de ce que je vais dire, faire, comment je vais fonctionner, mais ensuite c'est toujours l'autre qui va me dire, bah non, là, c'est pas tout à fait pertinent pour moi, ça m'a blessé, ça m'énerve, enfin, c'est tout ce qu'on voudra. C'est-à-dire qu'il y a une place pour les émotions, y compris les émotions négatives, on revient sur le conflit, et qu'on puisse, à partir de là, dialoguer, négocier, se mettre d'accord, réajuster, mais qu'on n'anticipe pas le désir, la réponse, la frustration, la difficulté de l'autre, et que par contre, on soit à l'écoute de la sienne, et qu'on ne se prive pas de dire que là, c'est compliqué pour moi, sous prétexte que d'autres ont trouvé que c'était simple, que la procédure nous dit qu'il faut faire comme ça, que maman donne des ordres, etc. Donc la subjectivité, c'est aussi ça, c'est aussi dire, ben ça, là, pour moi, c'est compliqué. C'est peut-être simple pour le voisin, mais... Et donc je ne décide pas à la place de l'autre de ce qui va être compliqué et de ce qui va être simple pour lui.
Et j'ai le droit de le dire, voire le devoir de le dire pour que le groupe fonctionne bien.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà. Alors on retrouve là des thèmes que les humanitaires... véhicule volontiers dans tout ce que vous venez de dire, l'écoute des populations en particulier, parce que quand on arrive dans une situation d'urgence, qu'elle soit d'origine humaine, les guerres, ou d'origine naturelle, la désertification, les transferts de population, etc., eh bien, il ne s'agit pas de plaquer non plus nos schémas occidentaux, en général, sur des populations, mais d'essayer d'écouter ce que disent et ce qu'ont à dire ces populations-là. Donc prendre en charge, dites-vous, sa propre vulnérabilité, est-ce que ça peut nous donner ça une clé, comment dire, pour nous préparer à ce dans quoi nous sommes déjà, c'est-à-dire à des moments de crise, des moments d'effondrement systémique de la planète ? Et ce dans quoi nous allons, vraisemblablement, de plus en plus. Est-ce que le fait de prendre en compte et en charge sa propre vulnérabilité permet, j'allais dire, d'être modeste par rapport à ce qui nous attend et qui n'est pas nécessairement rose ? Et en quoi est-ce que ça peut devenir plus rose ? En quoi est-ce que ça peut devenir plus optimiste ? Pardon de cette salve de questions pour terminer, en prenant en compte ma vulnérabilité.
Alors, je crois que comme je suis une grande optimiste, ma position, c'est que ça peut avant tout nous aider à essayer de ne pas se précipiter tout de suite dans l'effondrement en évitant d'adopter des comportements qui seraient censés nous protéger alors qu'en fait, ils ne nous protègent pas du tout. Donc, c'est là aussi on va retrouver le déni. C'est-à-dire que si j'admets, par exemple, que je suis quelqu'un qui est toujours un peu angoissé à l'idée de manquer, oui, on va juste rester sur manquer de quoi que ce soit. Eh ben, je réfléchis un peu à pourquoi, de quoi j'ai peur de manquer, et puis j'évite d'entrer dans une espèce d'hyperconsommation qui est évidemment accentuée. C'est-à-dire que la société de consommation accentue des mauvaises réponses au conflit et à la vulnérabilité. Elle nous dit qu'il y a des réponses immédiates, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus de danger, il n'y a plus d'insécurité, tout va être réglé magiquement, vous appuyez sur un bouton et le supermarché du coin vous livre toutes les réponses à toutes vos questions. Donc cette question de dire non, on est vulnérable, c'est pas une catastrophe, il faut y faire attention, mais on va pas se dévulnérabiliser là comme ça maintenant tout de suite, peut nous aider à mon avis à ne pas adopter des comportements qui au final sont vulnérabilisants. Puisqu'on sait que, évidemment, la crise écologique vient avant tout de notre ultra-consommation et de notre mode de vie qui ne tient pas, mais qui est là, qui fonctionne parce qu'il y a des enjeux financiers qui nous y poussent, mais il fonctionne parce que nous, intérieurement, ça nous rassure. Donc, c'est une lutte, mais une mauvaise façon de lutter contre notre propre sentiment de vulnérabilité.
Et la transmission du savoir dans cette période d'effondrement ?
Alors, la transmission du savoir, on est un peu sur les mêmes logiques, c'est-à-dire à la fois le savoir est précieux, peut nous aider à comprendre, mais il ne va pas tout régler. Et donc, j'oppose toujours deux positions, expert et chaman, et je considère qu'il faut tenir les deux positions, c'est-à-dire que le chaman, attention, dans le contexte traditionnel, parce qu'il y a beaucoup de choses actuellement sur des néo-chamanismes très dévoyés que je ne soutiens pas du tout. Mais le chaman traditionnel, c'est avant tout celui qui dit qu'on est vulnérable et qu'on peut faire avec ça. Alors avec des rituels qui le permettent, mais en tout cas de retrouver dans notre société d'aujourd'hui qui voudrait ne plus douter, qui voudrait tout savoir, etc., que ben, y a des moments où on ne sait pas, des moments où on est dans le doute et des moments où il faut faire avec ça.
Bon, voilà, je crois qu'on va rester sur ces derniers mots, expert ou chaman, et on pourrait peut-être le faire en musique, avec quel titre ?
Avec la poésie de Jacques Higelin, Champagne.
Ah oui, Champagne, magnifique.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière. Les farfadets, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu tendue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, tu fais remarquer. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Il est bloui par de l'ubrique vestale et géris insatiables chevauchant des valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanal qui charme nos âmes envahies par la mélancolie.
satyres, joufflues, boucs émissaires, gargouilles émues, fières, gorgones. Laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne.
Radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.